aujourd'hui, on vous emmène sur la côte de Nacre, à Ouistreham, en Normandie.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape de notre radio itinérante. Hier, vous étiez avec Aurélie Sfez à Simor dans le Gers. Aujourd'hui, on a posé nos micros sur la place du marché de Ouistreham dans le Calvados. Cette commune de 9000 habitants est connue pour son port et sa plage. Quand on flâne les pieds dans le sable de Ouistreham, difficile d'imaginer que cette station balnéaire a été le théâtre de violents combats. Le 6 juin 1944, à 7h25, le débarquement commence. 30 000 soldats britanniques arrivent par la plage de Ouistreham pour percer les lignes nazies. 700 vont y perdre la vie. Côté français, 177 combattants du commando Kieffer sont aux côtés des Anglais. 10 d'entre eux meurent le jour du débarquement. Quand on remonte l'avenue de la plage, on croise des photos de Jean Morel, de Gordon Prime, de Joseph Nico et de bien d'autres héros du débarquement de Ouistreham. Ces photos en noir et blanc sont toujours associées par deux, un Français et un Britannique, pour bien montrer le lien qui unit les deux pays. Le port de Ouistreham témoigne aussi de ce lien. Deux fois par jour, les ferries qui arrivent d'Angleterre y débarquent les touristes. La journaliste Florence Omnas a passé des mois incognito à bord de ces mêmes ferries où elle s'est fait embaucher comme femme de ménage. Elle raconte son expérience dans son livre « Le quai de Ouistreham », vendu à plus de 210 000 exemplaires. Emmanuel Chenu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes caricaturiste et dessinateur de presse pour le journal Ouest France. Vous êtes une encyclopédie vivante de tout ce qui concerne la Normandie. Les liens entre le Royaume-Uni et la Normandie ont toujours été très forts.
Ben oui, parce qu'en fait, l'Angleterre est en face de nous. On a surtout un homme qui a énormément marqué l'histoire, qui est Guillaume, qui est né bâtard et qui va devenir le conquérant avec sa femme, la reine Mathilde. Vous connaissez la tapisserie de Bayeux. Et cet homme va réussir la conquête de l'Angleterre. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est comme aller sur Mars. Le dernier homme qu'il avait fait, c'était Jules César. Et après, bien même Hitler s'est cassé les dents, Napoléon s'est cassé les dents. Donc vraiment, le couple qui a marqué cette région, parce que c'est un couple, c'est Guillaume et Mathilde. Et vous ne les trouverez pas dans Gala, par contre. Hein. Voilà.
Et ce lien très fort entre la Normandie et l'Angleterre va jusqu'au point que certains mots anglais ont des origines normandes.
Oui, rabbit, rabbit, c'est rabbit en normand.
Lapin.
Lapin, beef, bief, c'est un vieux nom du bœuf normand. Fashion, fashion, c'est fashion, le vêtement en normand.
Et en anglais, c'est la mode,
fashion. C'est la mode, oui, la fashion week. En fait, on devrait dire la fashion week.
On reviendra avec vous sur cette union entre la Normandie et l'Angleterre. Vous nous parlerez de votre passion pour votre région, oui, pour sa culture et son histoire. Dans ce rendez-vous place du marché à Ouistreham, on s'intéressera aussi au docker. On fera la connaissance d'un ancien croque-mort qui est devenu humoriste. Et à l'heure de l'apéro, on dégustera deux spécialités normandes avec un chef qui a eu le privilège de cuisiner pour Obama et Poutine. Et on terminera en musique au son de cornemuse. Mais avant, on écoute Françoise Breut avec son dernier titre, Dérives urbaines dans la ville cannibale, un choix de notre programmateur Djoubaka.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée. Le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivis par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée. Escalator mécanique désarticulé, on se pressait dans la mêlée, sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, 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 flux. Le flou flou de la foule, le flou flou de la foule, le flou flou de la foule, le flou flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulles de lasers au-dessus nos têtes. Défoncer les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques.
Les flics semaient le chaos avec leur sirène américaine. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés.
Écoutez France Inter, c'est rendez-vous place du marché à Ouistreham dans le Calvados. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Chenu. On s'est posé au cœur du marché, entre une vendeuse de chapeaux, une fleuriste. Et face à nous, il y a le stand La Maison du Boudin. On a rejoint Karine Lepetit. Karine Lepetit, bonjour.
Bonjour.
Vous rigolez parce que rien à voir avec vous, évidemment.
Bah non, je confirme, elle est très belle. C'est un scandale. Tu viens, chérie, on s'en va.
C'est juste le hasard. Mais voilà, on avait très envie de décrire ce marché avec voilà, ces commerçants bien du coin. Avec vous, Karine Lepetit, on s'intéressera à un métier en voie de disparition dans la région. C'est le métier de docker. Mais avant, on va commencer avec vous, Emmanuel Chenu. Vous êtes caricaturiste et dessinateur de presse pour Ouest France. Et vous êtes un Normand pur jus. Vous êtes né à Caen, juste à côté d'ici. La Normandie, vous l'avez chevillée au corps. Pourquoi vous l'aimez tant, cette Normandie ?
Bah, en fait, je l'aime tant parce que je crois que c'est profondément lié à mon enfance. J'ai grandi sur ces côtes. Moi, l'été, on partait pas très très loin. On n'allait pas dans le sud, on n'allait pas en Espagne. Tous mes copains partaient, je sais pas, à Ramatuelle et tout. Moi, j'allais à 15 km de chez moi.
Où ça ?
Ah ben, à Hermanville-sur-Mer, qui est une station qui est collée à Ouistreham. On revivait le jour le plus long, on rejouait ça sur la plage. Et c'est des souvenirs un peu proustiens de mon enfance. Donc c'est pour ça qu'en vivant ici, en fait, je cours après mon enfance, voilà.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais l'histoire de Ouistreham est intimement liée à l'Angleterre. Ça mérite qu'on s'y attarde. Ces liens ne datent pas d'hier, et selon les époques, c'était plus ou moins compliqué.
En fait, vous savez, on parle souvent du bassin méditerranéen. C'est notre berceau, Brodel a écrit la Méditerranée, mais on oublie complètement de dire qu'en fait, il y a un bassin, la Manche, la mer du Nord, la Baltique. Et il faut savoir que, bien entendu, nous, on est, à partir des années 800, on a les raids vikings qui vont profondément nous marquer, qui vont nous apporter de la violence, mais aussi une culture. Et on est un peu le produit de ce mélange, c'est-à-dire de ces dix barbares qui sont allés partout, hein, y compris en Amérique, et puis en même temps bah, de ce vieil empire romain, parce qu'il y a des villas romaines sur la côte, etc. On est un mélange de tout ça, et on est en permanence, je dirais, tourné vers la mer, en même temps en lui tournant le dos, contrairement aux Bretons. Un Normand va dire « Regarde comme c'est beau la terre avec la mer dans le dos », alors que le Breton, la mer c'est son salut parce que la terre est pauvre. Et ça c'est le paradoxe. On aime la mer, mais on est inquiet, et vous l'avez dit, la mer nous a amené la libération et en même temps les destructions.
Alors ce matin, là, on est sur le marché, au cœur du marché de Ouistreham. Elle représente quoi cette ville pour les Normands, pour le Normand que vous êtes ? Déjà, il y a une ambiguïté sur son nom.
Alors oui, parce que certains disent que Ouist, c'est Ost du vieux saxon, du vieux germain, enfin qui veut dire l'Est, hein, Osterreich, c'est l'Autriche. Et puis d'autres vont dire, mais pas du tout, c'est l'Ouest. Donc on est vraiment peut-être Macoui, peut-être Macnon. Je dirais qu'on est à Ouistreham, on n'est ni à l'Ouest ni à l'Est, on est au milieu de quelque chose. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais c'est notre côté un peu surréaliste. On est en quête d'un point cardinal qu'on cherche, ni Est ni Ouest. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le Normand, ça ? L'en même temps.
C'est à vous de nous le dire.
Ah ben, écoutez, je crois que ça traduit bien les Normands, c'est-à-dire une espèce de mélange entre notre côté nordique et en même temps, nous sommes des Latins. Et donc, on est vraiment à Ouistreham dans cet entre-deux. La guerre, l'histoire et en même temps, bah, le Front populaire, le balnéaire. Et c'est là le paradoxe.
Vous l'évoquiez, on utilise cette expression « une réponse de Normand », quand en fait on ne répond pas à une question. Ça vient d'où et est-ce que vous le prenez mal quand on dit ça ?
Non, alors en fait ça c'est une déformation. Le Normand va amener le droit. Il faut savoir que le droit normand va influencer, y compris l'Angleterre. Il y a un droit ici qui est même encore enseigné à Jersey et Guernesey, avec une juriste qui s'appelle Sophie Poiret. Je pense que ce « peut-être Mac oui, peut-être Mac non », c'est pas le type qui sait pas choisir, parce que quand Guillaume il a décidé d'envahir l'Angleterre, il n'était pas là en train de se tâter sur la plage, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, on y va. Non, c'est plus l'amour du droit. S'il y a autant de marchés, et votre émission, elle est bien arrivée en Normandie parce que ça a un sens, on est un pays de commerce et en même temps, on aime le droit. Et le droit, c'est l'équilibre, c'est la balance. Et je pense que le peut-être bain oui, peut-être bain non, c'est plutôt un amour de la justice et du droit.
Emmanuel Chenu, quand on s'est promené hier dans les rues de Ouistreham avec Irène Menahem et Thomas Lehété, on est passé devant une salle de cinéma étonnante. C'est une ancienne bâtisse néo-normande avec ses magnifiques colombages rouges. Ce cinéma art et essai porte le nom d'un personnage très important ici, c'est Michel Cabieux. C'est un héros local ?
Ben oui, c'est formidable ce que vous me dites, parce qu'il n'a rien à voir avec le cinéma, et moi je rêve qu'il y ait un film un jour. Et on lance un
sur lui ?
Oui, en fait Michel Cabieux, c'est une sorte de garde champêtre, c'est un garde côtier. À l'époque, on est véritablement en guerre contre l'Angleterre.
À quelle époque ?
Ben écoutez, c'est 1762, donc c'est la guerre de 7 ans, et on est agressé par les Anglais. Les Anglais vont nous attaquer, ils vont bombarder le Havre, ils font un raid les Anglais. Et là, les Anglais, c'est pas nos libérateurs à cette époque-là, c'est les Redcoats, c'est nos ennemis. Et ce gars, il voit arriver les Anglais qui débarquent et tout, il va mettre en route le canon, il va prendre un porte-voix, il va faire croire qu'il y a un régiment. Il est un peu l'homme orchestre, il va donc actionner le canon, il va surtout faire les bruits, c'est-à-dire donner les ordres, un petit peu « Dépêchez-vous les gars, en avant !» Alors qu'il est tout seul, il y a des bigorneaux sur la plage. T'imagines, il n'y a même pas de micro, maintenant il y a des micros. « Le petit Kevin, attends, même pas !» Il veut défendre la patrie. Et donc le gars fait peur aux Anglais, il tire au fusil tout seul, mais bien entendu, il est derrière des haies, il est derrière des buissons.
Et il se déplace en plus sur la plage.
Il se déplace, il court partout, mais c'est un personnage incroyable. Ce fait d'armes est réel.
Il blesse même un officier britannique.
C'est ça. Il a visé juste et en touchant et en blessant lui tout seul l'officier, il fait véritablement croire aux Anglais que c'est un corps d'élite. C'est par lui seul, mais avec ce courage, qu'il va réussir à être crédible.
C'est du courage ou c'est de la folie ?
Je crois que c'est l'amour de ce territoire. Vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit peu l'âme des résistants, ceux qui lutteront contre les nazis et qui vont permettre aux alliés de débarquer. Il faut savoir que la résistance normande, elle a été très active au moment du débarquement. Et donc, d'une certaine façon, c'est un peu le père de ces futurs résistants.
Et bien justement, Ouistreham fait parler d'elle dans les médias au moins une fois par an. C'est au moment des cérémonies du débarquement du 6 juin 44. Les célébrations de ce jour si important pour la France sont très suivies, mais on oublie que ces commémorations sont relativement récentes.
Oui.
En fait, elles datent de 1984. Oui. C'est François Mitterrand qui a voulu qu'on célèbre ce jour. Pourquoi c'est venu aussi tard ?
Pour De Gaulle, le grand débarquement, c'est le débarquement sur la Méditerranée, parce que ce sont les armées du maréchal Juin, c'est les armées de Monte Cassino, c'est les armées d'Afrique, c'est les armées gaullistes. Le débarquement de Normandie, pour De Gaulle, eh bien, ce sont les Anglais, même s'il y a quelques soldats fusillés marins, le fameux commando Kieffer. C'est vrai que moi, gamin, j'avais 17 ans en 84, on avait tous un ancien combattant comme correspondant. Et moi, le mien, il s'appelait Reuben Aethershaw. Il avait débarqué, c'était un homme il ne racontait jamais la guerre. Ils ne racontaient jamais leurs faits d'armes. Ils étaient d'une dignité totale. C'est là que j'ai compris ce qu'est la transmission. Véritablement, je crois que la grande beauté des festivités, c'est que sur une population, d'ailleurs les touristes américains le disent, ici on a transmis cette mémoire. Et je crois qu'on est assez fiers ici, malgré les destructions, car faut pas croire qu'on est libéré. On est libéré avec des morts civiles, avec des villes détruites. Nous sommes très fiers ici de ce geste de ces jeunes hommes. Ils avaient 17, 18 ans qui sont morts pour nous libérer. Et je crois que la Normandie garde et gardera en mémoire ce geste-là pour un peu sa vocation universelle. C'est-à-dire que le mémorial de Caen est aussi là pour enseigner cela et pour dire que ça peut recommencer. La guerre, c'est pas que dans les films ou sur Netflix, et que ça peut tout le temps recommencer. Voilà.
À Ouistreham, on l'a dit, le port tient une place très importante. On va s'intéresser maintenant aux deux quais de Ouistreham avec Karine Le Petit. Vous avez travaillé pendant 20 ans sur les métiers du port et notamment au port de Caen Ouistreham. Vous avez passé énormément d'heures avec les ouvriers du port. Le fruit de ce travail travail a donné la naissance à un documentaire qui s'appelle Docker, de père en fils. C'est un documentaire sur un métier qui est en train de disparaître, en fait. Comment vous est venue l'idée de faire un film sur ces dockers-là ?
Parce que je suis ethnographe, et donc l'ethnographie, c'est avant tout passer du temps avec les gens. Chez les dockers, j'ai retrouvé quelque chose de très fort que j'avais découvert au début de ma carrière auprès des Tziganes. C'est une solidarité, quelque chose qui n'est pas un vain mot, qui est véritablement vécu et pour lequel j'étais très très admirative. Donc c'est un métier vraiment spectaculaire en fait.
Dans ce documentaire, vous suivez le quotidien de quatre dockers, Christophe, Thierry, Bruno et Didier. En quoi consiste leur métier ?
Alors leur métier consiste à être disponible déjà lorsqu'un bateau arrive et la disponibilité, eh bien, elle est imprévisible. Le trafic portuaire, on ne peut pas savoir quand un bateau va arriver, donc il faut être sans cesse à l'affût des arrivées de navires et ensuite être en mesure de charger ou décharger des marchandises qui, à Caen, ne sont pas encore dans des conteneurs. Donc qui sont en vrac et qui sont différentes à chaque fois avec une réaction différente de ces marchandises. S'il s'agit de pondéreux, c'est-à-dire de poids réguliers comme des engrais, voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus prédictif dans l'attitude que va avoir la marchandise. Et par contre, ils sont spécialistes dans le déchargement. Donc sur le port, on appelle ça des billes de bois. Il s'agit en fait de troncs d'arbres immenses puisqu'ils sont en provenance du Brésil, d'Afrique. Donc c'est même pas les arbres centenaires que l'on a ici, ce sont des troncs absolument gigantesques.
Qui pèsent des tonnes.
Qui pèsent des tonnes, qui se comportent de façon différente en fonction des écorces, en fonction des essences. On peut avoir les écorces qui explosent.
On le voit dans votre film, c'est très impressionnant. On voit ces hommes encercler ces troncs d'arbres avec un câble électrique et les tirer. Et en fait, effectivement, lorsque la grue soulève ces troncs d'arbres, on ne sait pas comment ça va réagir et ça peut leur tomber dessus, quoi.
Ça peut très très clairement leur tomber dessus et c'est ce qui fonde le ciment de leur identité professionnelle. C'est extrêmement physique, c'est extrêmement dangereux et ils doivent se faire confiance les uns les autres. D'autant plus que celui qui a la maîtrise de ce filin d'acier, c'est le grutier. Et le grutier, la plupart du temps, ne voit pas les dockers en fond de cale. Donc c'est un des dockers qui va se mettre sur le bord de la cale, qui va jouer le rôle qu'on appelle ici à Caen de pareur.
C'est un intermédiaire entre le grutier et le docker qui est en fond de cale.
Exactement. Mais imaginez-vous le rôle de cet intermédiaire, puisque avec des gestes, avec des mots criés au grutier, il va guider avec précision un crochet qui, à lui seul, peut arracher la main d'un docker.
C'est extrêmement important comme rôle. Karine Lepetit, votre film, on l'a dit, s'appelle « Docker de père en fils ». On va en écouter un extrait. C'est Bruno, l'un des quatre dockers que vous avez suivis, qui parle de son père et de la dangerosité de leur métier.
Mon père, il a un pied coupé. À l'époque, il déchargeait dans les wagons pour recharger en bateau. Et il y a une traverse de chemin de fer qui a glissé. Il est tombé à ras de lui et puis qu'il a écrasé le pied. Donc il a eu le pied coupé. D'accord. Il avait 40 ans quand ça y est arrivé. Normalement, il avait pas le droit d'aller en cale. Mais bon, des fois, ils y allaient quand même. Il y avait certains boulots où il fallait le faire quand même. Donc il prenait quand même. Par contre, il jonglait.
Ah
oui, il souffrait énormément.
Ça, tu savais qu'il avait
mal. Ah oui. Ah oui, quand il avait le pied esquinté devant, c'était drôle.
Ce métier, on l'a entendu, se transmet de père en fils. Il fallait faire honneur à son père. C'est une sacrée pression, ça, quand même, pour eux.
Tout à fait. C'est pas un cadeau. C'est-à-dire que non seulement ils devaient correspondre au projet qu'avait leur père pour eux, mais aussi la communauté portuaire dans leur intégralité ne leur faisait dérouler pas le tapis rouge. Au contraire, on avait des épreuves, des rites initiatiques, en fait, pour pouvoir entrer dans cette communauté et être pleinement intégré. Parce que c'est une question d'endurance. Il s'agit pas de faire le malin une demi-journée dans la cale. Il suffit de tenir sur le long terme, de savoir à la fois respecter l'autorité des dockers qui vous accueillent et puis à un moment donné aussi se faire entendre, se faire respecter parce qu'on a su répondre.
Emmanuel Chenu, vous connaissiez le métier de ces dockers au port de Ouistreham ?
Mais non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pour nous, les dockers, c'est le Havre. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de nous expliquer que nous avons encore un port et que ces gens, c'est presque des artisans dockers, c'est-à-dire qu'ils font du sur-mesure. Et bah parce que finalement, aujourd'hui, Anvers ou Le Havre, ce sont des grandes machines, etc. Et je suis très, très heureux de découvrir ça, parce que pour vivre heureux, ils vont cacher un peu. Hein. C'est un peu la maxime des gens d'ici aussi.
Sauf que, avant 92, il y avait une cinquantaine de dockers sur le port de Ouistreham. Quand vous les aviez rencontrés il y a quelques années, ils étaient quatre, et aujourd'hui, ils ne sont plus que deux. Ce métier, il tend à disparaître, en fait.
Oui, ils ont perdu leur statut en fait en 1992, donc un moment où effectivement il fallait réduire la main d'œuvre sur le port, moins de trafic et aussi une mécanisation de plus en plus importante.
On avait invité ces deux dockers, il y en a un qui au moment où on parle est sur le quai en train de travailler et l'autre n'a pas souhaité venir parce que c'était trop douloureux pour lui d'évoquer justement la disparition de son métier.
Oui, en fait, il n'est pas encore à la retraite. Il travaille toujours en tant que docker avec ce statut, mais il n'a plus les camarades. Et surtout, ce sont des hommes qui se sont construits par rapport à un modèle qui était celui de leur père et qui ont vraiment reproduit les gestes et qui se sont inscrits dans une filiation très très forte et plus complexe que simplement père et fils.
Karine Le Petit, à la fin de votre documentaire, vous concluez en disant qu'on assiste à la fin d'une utopie ouvrière. Emmanuel Chenu, la Normandie a justement une histoire particulière avec le monde ouvrier.
La fin des dockers, c'est aussi ben, finalement la suite logique de cette désindustrialisation. Ce qui m'a beaucoup touché, j'imagine ce que vit ce monsieur, c'est aussi de peut-être pas inconsciemment de ne pas avoir été à la hauteur de son père. Il y a le syndicat qui est la famille, mais il y a aussi le père en fils. Et ça, c'est extraordinaire. C'est aussi quelque chose qui se perd. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous racontez. Et être à la hauteur vis-à-vis des camarades, mais être aussi, je vais faire aussi bien que mon père, et mon père devait être un héros.
C'est tout à fait ça. Et malheureusement, eux avaient pour projet de transmettre à leur propre fils ce qu'ils ont commencé à faire, mais leur fils ne peut venir que pour des vacations très ponctuelles.
Karine Le Petit, Emmanuel Chenu, on va quitter le port de Ouistreham pour aller à Reuviers, un petit village de 600 personnes à quelques kilomètres d'ici. On va rencontrer Marie-Brigitte Fontaine. Elle était pharmacienne depuis de nombreuses années. Et un jour, elle a eu un coup de cœur pour le château de Reuviers qui était à vendre. Et ni une ni deux, elle a vendu sa pharmacie. Elle a pu acheter le château et y faire de gros travaux. Et maintenant, elle veut faire le lien entre les gens, l'art et la nature. C'est le but de cette pharmacienne devenue châtelaine.
Une copine agent immobilier est venue à la pharmacie en me disant « Vite, vite, je rentre un bien, je m'en vais. » Puis moi, j'adore tout ce qui est maison à développer. Enfin, tout l'immobilier, j'adore voir ce qu'on peut faire dans un lieu. Elle m'a montré le château, je fais « Waouh !» Et la semaine d'après, je signais. Voilà, donc c'était pas programmé, c'était pas calculé. Je me suis dit « C'est là, il faut que j'y aille. »
On repasse devant ce magnifique sol pleureur. Oh là, il mesure combien, là, ce sol pleureur ?
Écoutez, 20 mètres le château, donc il doit faire 25-30 mètres.
Vous, Marie-Brigitte, vous êtes fan de botanique.
C'est une passion qui m'anime depuis que je suis toute petite. Dès que j'ai pu, quand j'ai vu des pépins, des graines, vers 7-8 ans, je faisais pousser tout ce que je pouvais. Donc voilà, ça ne m'a pas quittée. Et ici, j'ai 2,5 hectares pour développer ma passion. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est utiliser les plantes dans l'alimentation. Donc, on fait par exemple des tepaches à base de d'écorce d'ananas fermentée.
C'est un dessert, ça vient d'où ?
C'est une boisson qui est très très riche en probiotiques pour lutter contre les pathologies actuelles qui ne cessent d'augmenter.
En plus, c'est un domaine que vous connaissez bien puisque vous avez été pharmacienne pendant combien de temps ?
J'ai toujours exercé en tant que salarié et puis après pendant 10 ans là en tant que titulaire puisque j'avais racheté la pharmacie de Langrune et que j'ai vendu il y a 1 an. Et puis ça m'a permis d'en arriver là.
On poursuit la visite,
oui.
Marie-Brigitte.
Là on va monter au premier étage. Alors je peux vous montrer au passage, ça ce sont les chambres d'hôtes. Voilà.
Ah oh, c'est magnifique. Oh, ah ouais c'est sublime hein. Ah oui, il y a carrément la baignoire dans la chambre.
Celle-là, elle fait beaucoup aux amoureux. Et là, vous arrivez chez moi. Entrée, c'est à gauche.
Et là, qu'est-ce qui se passe ? On entend de la musique.
Eh bien, là, c'est le cours de jazz du jeudi soir.
Vous vouliez vraiment toucher à plusieurs secteurs, la botanique, le spectacle.
En fait, je voulais partager tout ce que j'aime, la création, l'inventivité, l'imagination, la botanique et le bien-être.
Rendez-vous Place du Marché sur France Inter.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet, all of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go? Someday, for whatever my man is, I'm his forevermore.
On vient d'écouter Billie Holiday avec son titre My Man, un titre qui date de 1952.
Antoine Lee.
Vous êtes sur France Inter, c'est Rendez-vous Place du Marché à Ouistreham en Normandie. Nous sommes toujours avec Karine Le Petit, ethnologue, et Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse et grand amoureux de sa Normandie natale. On reçoit deux autres passionnés de la région, le chef Michel Bruno, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez apporté des spécialités locales qu'on va bientôt déguster pour l'apéro. Harold Barbet est aussi avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Caen? Et à 38 ans, vous avez eu déjà plusieurs vies. Vous avez été commentateur sportif, croque-mort, et maintenant vous êtes humoriste. C'est vraiment un parcours atypique tout ça.
Ouais, c'est les trois dernières activités que j'ai faites. Heureusement, j'ai gardé que humoriste parce que voilà, il y a un moment où faut évoluer et être dans des sphères un petit peu plus agréables. Mais c'est vrai que croque-mort et commentateur sportif ont pris une grosse partie de ma vie ces dernières années. Ouais.
Mais là aujourd'hui donc c'est l'humour qui domine dans vos activités. Vous avez fait la première partie du spectacle de Blanche Gardin. Comment s'est faite cette rencontre avec Blanche Gardin ?
Eh ben en fait moi je suis marié avec une américaine et en fait à une époque je ne faisais que du stand-up en anglais à Paris. Et il se trouve qu'avec un seul plateau où on pouvait jouer en anglais et Blanche à l'époque avait l'ambition de pouvoir jouer aussi en anglais, on s'est vraiment rencontrés comme ça au hasard, au détour d'un plateau, et on a matché tout de suite et est née une relation amicale, et donc elle m'a proposé de la suivre après en tournée, quoi.
Et cette relation amicale vous a permis de vous décomplexer par rapport à certains sujets?
Surtout quand on a l'ambition de parler de la mort sur scène, faire les premières parties de Blanche Gardin, ça reste quand même ce qu'il y a de plus facile. Parce que bah là, on peut y aller. Et c'est pour ça que ça a toujours très bien fonctionné, parce que elle est tellement débridée que tous les sujets sont possibles et faciles d'accès en plus.
Harold Barbet, vous avez accepté de nous jouer un extrait de l'un de vos sketchs où vous emmêlez les pinceaux entre vos différentes vies, celle de croque-mort et de commentateur sportif.
Ouais, alors en fait, j'explique que à l'époque où j'étais humoriste, commentateur sportif et croque-mort, en fait, parfois je faisais des combos dans la journée, parfois je prononçais une oraison funèbre le matin, je commentais le Stade Malherbe à 15h et le soir, j'étais sur scène pour raconter des blagues. Et que chacune de mes activités avait un ton bien dédié et qu'il fallait surtout pas que je me trompe parce que sinon ça pouvait vite devenir problématique et que ça aurait pu donner un truc comme ça, quoi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte-Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, il faudra en remplir au moins un aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille, Mireille Desclos. Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église. Alors que ça y est, Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager, portée par un convoi funéraire. Alors une formation classique, 1, 2, 2, 1, 1, veuve, 4 porteurs, 1 maître de cérémonie. Et c'est en toute subtilité que les 4 porteurs se saisissent des sangles noires pour descendre Mireille au fond du caveau. Il a descendu tranquillement, il a glissé en profondeur, et c'est au fond, oh, et les larmes sur les joues des membres de la famille de Mireille. Oh, c'est beau, c'est magnifique, Mortagique, ici Trouville, à vous, Istréable.
Merci beaucoup Harold Barbet. J'aimerais qu'on s'attarde sur vos 2 années passées dans une entreprise de pompes funèbres. D'abord, comment vous avez atterri là-bas ?
Par nécessité financière, je pense que c'est la première étape. Non, alors à l'époque, j'avais quitté un CDI pour me lancer dans l'humour et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Plus personne n'y croyait trop, tout le monde me disait qu'il fallait que je reprenne un travail, tout ça, mais moi je sentais que c'est ce que je voulais faire, mais il me fallait un travail un petit peu vraiment à la carte, que je puisse arrêter un peu en mode stop and go. Et je suis tombé sur une annonce sur internet de porteurs funéraires, et donc comme j'avais bossé comme brancardier quand j'avais 19 ans au funérarium du CHU de Caen, je me suis dit j'ai peut-être de bonnes bases pour faire ça. Et en fait, il s'est avéré que c'était totalement différent et j'ai découvert un monde fascinant.
En quoi c'était fascinant ce monde ? Parce que justement, quand on se dit croque-mort, ça fait peur en fait.
Par rapport à mon histoire personnelle, quand j'étais petit, il y a eu pas mal de décès dans ma famille et j'ai vraiment été marqué par cette période-là. Et du coup, j'avais envie de savoir, j'avais une attirance particulière parce que les pompes funèbres, c'est quand même ce qui est entre la mort et la vie, quoi. C'est vraiment les dernières personnes qui accompagnent sur... Moi, je compare ça au limbe un petit peu. Donc, c'était quelque chose qui m'attirait. Je sais pas, ça allait de soi que je finisse là-bas, que j'ai eu une expérience comme ça dans ma vie.
Vous découvrez un monde qui ne ressemble pas aux clichés qu'on peut avoir justement sur ce milieu, et vous découvrez un monde qui est vraiment porté vers les autres, dont l'une des qualités, c'est l'empathie.
L'image des pompes funèbres et du croque-mort, entre guillemets, c'est quelqu'un d'austère qui s'enrichit sur la mort des autres, alors que pas du tout. Moi, j'ai vu, lorsque j'ai travaillé pour plusieurs pompes funèbres, et j'ai vu énormément de personnes bienveillantes, très axées sur l'empathie, effectivement, et que le deuil puisse se faire correctement. Et ça, c'est vraiment en tout point admirable, et je trouve que c'est une catégorie professionnelle qui est très peu mise en valeur, notamment au niveau de la pandémie, où quand il y a des attentats, on pense jamais, en fait, au croque-mort. Il y a toujours, à juste titre, une pensée pour la police, les pompiers, le personnel soignant, mais là en pleine pandémie, c'était limite scandaleux que les pompes funèbres n'aient pas eu accès aux masques, aux gants. Moi, j'ai d'anciens collègues qui quand même enterraient des gens avec des sacs poubelles à la place des gants. Donc on est en France en 2021, quoi.
Juste une chose, pour les dessinateurs, on a été aussi beaucoup marqués dans leur mauvaise image des croque-morts. Tu sais, c'est Lucky Luke. Mmh. Maurice dessinait avec le scénariste Goscinny. Il dessinait toujours ce personnage qui était un peu jaune, avec un chapeau de haute forme, et qui mesurait. Et t'as raison, il y avait ce côté prendre l'argent, etc. Mais en même temps, je me dis, mort de rire. C'est quand même un symbole extraordinaire. Le rire et la mort, ils sont associés dans ce mot « mort de rire ».
Et justement, Harold Barbet, entre monter sur scène pour jouer votre spectacle humoristique et faire un discours lors d'un enterrement, c'est le grand écart quand même.
Pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça, parce qu'on est vraiment dans la recherche de 2 émotions, ma foi, différentes, mais tout aussi intenses. Parce que d'un côté, on cherche le rire. De l'autre côté, on cherche pas à faire pleurer les gens, mais on cherche quand même à leur retransmettre une mémoire, un souvenir de la personne qu'ils ont perdu, d'un être cher. Et du coup, le poids des mots et l'importance de ce qu'on va mettre en place est tout aussi important que quand on veut délivrer la vanne parfaite. Donc c'est à la fois très différent, mais en même temps extrêmement similaire, même si j'ai rarement eu des applaudissements pendant une oraison funèbre. Mais ça prend aux tripes quand on le fait, quoi. On s'en souvient. Quand on va pour faire une oraison funèbre, dire au revoir, on sait qu'on est la dernière personne avant de refermer le caveau, parler de la personne tant qu'elle est encore parmi nous. Donc il y a une responsabilité.
Lorsque vous jouez, est-ce qu'il y a des fois des gens dans le public qui sont des salariés d'une entreprise de pompes funèbres qui viennent vous voir ?
Mais toujours. Toujours. Et où que j'aille, j'ai toujours des gens qui sont dans les pompes funèbres, des salariés qui viennent. J'ai eu le cas à Troyes, notamment à Dijon aussi. Après, je parle encore avec eux et souvent ils me disent « Ouais, il faut que tu parles de nous, on n'a pas de gants, tout ça. » Donc c'est pour ça aussi que j'en parle et que j'insiste sur le fait que ce soit une profession qui soit à qui on donne très peu la parole. Et si j'ai l'occasion, moi, comme ça, de pouvoir dire que ce que eux ressentent, je le fais avec plaisir.
Vous, vous êtes très fier de venir de Caen. Il y a un autre artiste qui est très fier aussi de ses origines caennaises, c'est le rappeur Orelsan. Tous les deux, vous mettez en avant très facilement vos origines normandes. Comment ça se fait, ça ?
Bah, je crois qu'on est de la même année. En plus, on est tous les deux de 83. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je crois que le Canet s'exporte très mal. D'ailleurs, Orelsan, il est revenu ici. Hein, il a acheté sa maison, bon, je vais pas dire où, mais en bord de mer. Et moi, c'est pareil. J'ai longtemps fait des allers-retours entre Caen et Paris. Mais moi, je suis très, très attaché à ici, en fait. J'ai grandi là. J'aime arpenter les rues mouillées de Caen parce qu'il pleut tout le temps. J'aime me plaindre qu'il se passe jamais rien dans cette ville. J'aurais vraiment, vraiment du mal à la quitter. Et je pense que lui, il est dans ce cas-là.
Il ne pleut pas chez nous. Il pleut par intermittence. Et non, mais en plus, c'est faux parce qu'en fait, on a le même taux de pluviosité qu'à Paris. Et donc en fait, ça c'est encore une... Tu racontes n'importe quoi, Harold.
C'est pas complètement une légende.
Je voulais vous dire que c'était... c'est un scandale. Tu as fait tes copains de Caen qu'on lui pète la gueule. Il ne pleut pas à Caen, c'est totalement faux. Ici, France Inter, il fait beau en Normandie. Dis quelque chose, Michel. Pète-lui la gueule aussi.
Ah non, mais moi, le souvenir que j'ai d'enterrement, c'est qu'une fois, les parents qui avaient perdu leur grand-père, je crois... m'avait demandé de faire une poularde demi-deuil avec des trompettes de la mort. Ah ouais, ça m'avait un peu choqué quand même, ça m'avait choqué.
Oh la vache. Excellente blague.
Harold Barbet, merci beaucoup. Vous serez en tournée les prochains mois à Lille, à Lyon et évidemment à Caen. Tous les détails sur notre page internet. Allez, c'est l'heure de l'apéro. On retrouve le chef Michel Bruno. Votre restaurant La Bourride avait obtenu 2 étoiles au Guide Michelin et 3 étoiles au Bottin Gourmand. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement un collègue puisque vous intervenez très régulièrement chez nos amis de France Bleu Normandie. Vous nous avez apporté ce matin 2 spécialités normandes. Qu'est-ce que c'est ?
Bah d'abord, la tradition, c'est à Guémené, ils font des bêtises. Eh ben moi, ça fait 50 ans que je fais l'andouille. Puis c'est un produit tellement emblématique et tellement méconnu que je trouve que c'est un produit qu'il faut mettre en valeur. Mais c'est un petit peu le côté taiseux du normand. Alors j'ai amené un autre produit sucré qui est aussi très taiseux parce que une coque, quand c'est frais, ça doit être fermé. C'est un peu le côté du normand. Il est fermé, mais quand on le découvre, quand on ouvre cette coque à l'intérieur, on a le beurre, on a la crème. Voilà, par hasard, une richesse traditionnelle. Et puis une richesse un peu nouvelle tendance, nouvelle cuisine française, nouvelle cuisine normande, pardon.
On va proposer à tout le monde de goûter ce que vous avez apporté. Harold, Karine, goûtez. Qu'est-ce que c'est justement ?
C'est l'andouille de vire, fait avec l'intestin du porc, qui est d'abord nettoyé bien évidemment, salé, ensuite embossé, c'est-à-dire que dans un gros boyau, on met tous les petits boyaux, et contrairement à l'andouille, comme le dit Emmanuel de Guémené, où ils sont très rigoureux et où mettent les boyaux du plus petit au plus grand, nous on les met en vrac, et puis ensuite on les fume, et on les fume au bois de hêtre ou au bois de pommier, bien évidemment. Et ça donne ce produit qui est un produit emblématique, qui est un produit... Ça, avec des petites pommes de terre, tout simplement, une boulangère d'andouille, c'est le petit Jésus, non pas dans la crèche, mais dans l'andouille.
Servi froid et tiède aussi, tu peux, c'est ça ?
Servi froid et tiède, poêlé, snacké
bon.
À la plancha.
Non, mais...
Mais Emmanuel Chaunu, c'est comment ?
Oui. Ah bah écoutez, je veux dire qu'on a, ça y est, on a, par rapport aux Bretons, voilà, faut quand même dire qu'on les, franchement, les Bretons n'ont pas le Mont-Saint-Michel et ils n'ont pas l'andouille de vire. T'as vu,
on va pas se fâcher avec nos amis bretons, Emmanuel Chaunu, Harold Barbet, apaiser un peu les choses avec nos amis bretons.
Moi, je suis normand, du coup, les Bretons, c'est vrai que j'aime bien me les faire aussi. Mais...
Bon, bah alors dites-nous comment vous avez trouvé cette andouille de vire.
Non, c'est très bon, ça met à mal mon véganisme récent, mais merci de m'avoir fait manger. Non,
désolé, on savait pas, fallait nous prévenir.
C'est pas grave, je pense que je suis un imposteur. Mais
non, c'est très bon. Tofu, hein,
non, c'est excellent.
Et Karine Le Petit, comment vous la trouvez cette andouille ?
Bah, c'est un délice, moi, c'est mon enfance, je suis né à Vire.
Bah voilà, il l'a fait exprès, Michel Bruno.
Ils ont une chance, un peu comme moi. J'ai pas choisi des Normands. Bah, j'ai juste eu de la chance, c'est tout. Mais c'est un grand bonheur, une grande chance.
Bah justement, on va s'attarder un petit peu sur votre parcours, Michel Bruno. Vous avez commencé votre carrière très jeune, d'abord par une école hôtelière à 15 ans. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de fuguer au guidon de votre mobylette. Qu'est-ce qui vous a pris, Michel Bruno ?
Ben non, fuguer n'est peut-être pas le mot. J'avais un conseiller d'orientation qui avait dit à mes parents « Ce garçon, il devrait pas faire de la cuisine, c'est un métier ordinaire, surexploité. » Et puis « Non, faites-lui faire des études. » Alors j'ai fait l'école hôtelière, mais au bout d'un an, je devais faire 3 ans, au bout d'un an d'école hôtelière, j'ai dit « C'est pas possible. » Alors j'ai dit à mes parents « Je veux plus faire l'école hôtelière. » Alors ils m'ont dit « Non. » Puis comme j'avais choisi ce métier pour être libre, j'avais une mobylette, une motobécane. Ben, j'ai pris la motobécane et je suis parti de Paris jusqu'à Vallon-Pont-d'Arc dans l'Ardèche.
Tu avais mis du calva dans le réservoir, hein, pour que ça aille plus vite.
Et arrivé là-bas, bon, allez, j'ai été retrouvé. Faut que je dise quelque chose de vrai quand même. J'ai été retrouvé une femme, parce que j'avais passé une grosse partie de mes vacances. Donc, je te rassure, elle avait 50 et quelques années, et moi j'en avais 14.
Ah, c'était pas une histoire d'amour.
Non, j'avais été la retrouver en cuisine, tout simplement.
Elle est à l'origine de vos premiers émois gustatifs ?
Oh oui, certainement.
Décrivez-nous ce moment où vous avez cette émotion pour la première fois, en goûtant la cuisine de cette femme.
C'est pas par rapport au mets, c'est pas par rapport au produit, c'est par rapport à ses yeux. Elle avait des étoiles qui brillaient dans ses yeux. Quand elle parlait de cuisine, elle parlait d'amour, elle parlait de tendresse, elle parlait de générosité. C'était pas trois petits pois avec un quart de filet de sole au milieu d'une assiette, et puis un tour de moulin à poivre, et puis de la fleur de sel. Non, il y avait de la sauce, c'était généreux. Pour découvrir le poisson, la volaille qu'elle nous faisait, fallait d'abord découvrir la sauce, fallait d'abord découvrir la petite pomme de terre qui n'était pas épluchée, surtout pas, qui était grattée, qui était lavée, mais qui était mise naturellement. C'était la découverte de la générosité. Et c'est ça qui fait aussi la force de la cuisine normande, c'est tous ces pêcheurs, ces agriculteurs, ces éleveurs qui nous livrent au quotidien. Nous, les cuisiniers, on n'est que des acteurs, les metteurs en scène, les réalisateurs, c'est eux qui sont derrière nous. Moi, j'ai envie de leur dire merci, surtout ne changez rien.
C'est un Harold Emaud culinaire, ce qui lui est arrivé de rencontrer, de tomber amoureux quelque part, gastronomiquement, d'une femme plus âgée. Je trouve que c'est beau. Ouais. J'aime bien cette histoire-là.
Non, mais c'est une belle histoire. Ma femme m'a souvent reproché d'avoir une maîtresse et de la tromper. Ben oui, la maîtresse, c'était la cuisine. Et je l'ai trompée pendant 60 ans. Bon, je trouve que c'est pas trop grave quand même.
Dans quelques instants, Michel Bruno, vous allez nous dévoiler les coulisses d'un repas au sommet, puisque vous avez eu l'occasion de cuisiner pour 19 chefs d'État, dont Barack Obama et Vladimir Poutine. On fera aussi la connaissance d'un passionné d'histoire. Il nous jouera de la cornemuse, un titre à la mémoire des héros du débarquement.
I'm black. France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine.
On est toujours sur le marché de Ouistreham. Tous nos invités sont restés pour savourer les plats que vous nous avez apportés ce matin, Michel Bruno. Redites-nous ce qu'on mange là.
Eh ben, de la véritable andouille de vire. Et puis des coques de Cabourg. Des coques de Cabourg, c'est relativement nouveau, mais c'est la preuve qu'avec des produits du terroir, on peut faire quelque chose de nouveau. Alors, c'est une coque qui est complètement fermée. Mais un coquillage, il doit être fermé quand on le déguste. Mais quand on déguste à l'intérieur, on a cette saveur de chocolat, de crème, de beurre, de générosité, qui identifie bien l'identité culinaire normande. Et puis quand même, comme l'andouille de vire qui avait été servie lors d'un grand repas du 70e anniversaire, ces coques ont été servies aussi avec le café.
Michel Bruno, sur votre CV, vous pouvez vous targuer d'avoir cuisiné pour 19 chefs d'État. C'était pour le 70e anniversaire du débarquement, le 6 juin 2014. Vous étiez l'un des 5 chefs étoilés normands sélectionnés pour préparer justement ce repas qui s'est tenu au château de Bernouville. Parmi les convives, François Hollande, évidemment, Barack Obama et Vladimir Poutine. Il est sympa, Barack Obama ?
Barack Obama, il est très sympa. Poutine, un petit peu moins.
C'est très drôle. Encore. Quand il a fumé 2-3 andouilles de vire, tu es dur avec lui. Vladimir est un bout en train, il est beaucoup plus drôle qu'Harold.
Oui, tellement bout en train qu'il est arrivé devant nous. On était dans le bas de l'escalier en disant peut-être qu'on pourra serrer la main. Il est arrivé, il a posé, oh, ça doit être 12 secondes et demie. Pas un sourire, rien. Mais heureusement, on a eu la chance après d'avoir le président Obama. Alors moi, je me dis, mais si des fois on a la chance de le voir, il faut que je répète un peu mon anglais, parce que speak English, mais pas very well. Hein. Et la veille, j'avais appelé ma petite fille en disant, fais-moi un petit discours, mais court, hein, 35 secondes, 40 secondes en anglais. Elle me l'avait fait, j'ai répété jusqu'à 3 heures du matin, le lendemain, il arrive, je ne savais plus. Et je dis simplement, we are very happy.
Et on est très heureux.
Ouais. Et il me fait, merveilleux, fabuleux.
En français,
j'ai dit. Oui, en français.
En fait, il est de Ouistreham. Hein, faut le dire, Barack est de Ouistreham. Hein,
voilà. Mais non, mais j'ai dit, c'est le plus beau métier du monde. Un simple petit cuisinier qui a son CAP, qui a ce compliment dans la bouche de Barack Obama. C'était chouette. Il y en a plein comme ça. La veille, on avait eu aussi la. Alors, je sais pas si c'est la cuisinière ou la nutritionniste de Monsieur Poutine. Je dis Monsieur. Et qui est venu pour voir un peu les mecs qu'on allait servir, ce qui me paraît logique.
Mais qu'est-ce que vous avez préparé pour eux?
Alors, on avait du Saint-Pierre, ensuite on avait une longe de veau, on avait du fromage. Honnêtement, tout le monde n'en a pas mangé, sauf le président Obama qui a dit « I want to camembert, please ». Exceptionnel. On avait un petit dessert autour de la pomme, bien évidemment.
Et cette femme, qu'est-ce qu'elle vous voulait, qui est venue vous voir au nom de Vladimir Poutine?
Ah ben, je pensais qu'elle allait nous demander que ce qu'on servait, quelle était l'origine des produits, quels étaient les glucides, les lipides, les protéines, enfin tous ces trucs-là qu'on calcule maintenant. Ah, pas du tout. Elle voulait qu'on mette tous les fours, tout le matériel électrique en marche et contrôler simplement si au niveau de la sécurité, les extincteurs qui étaient au plafond marchaient bien. Alors là, j'ai appelé le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui était là. J'ai dit, écoute, si tu peux emmener la dame, parce que là, ça va pas le faire du tout. Le matin, 5h du matin, contrôle des véhicules à Caen, bien évidemment. Vous savez ce qu'ils nous ont fait, le service de la sécurité russe? Ils ont contrôlé le véhicule dessous à l'intérieur. Ils ont fait un prélèvement du lave-glace pour l'analyser. Savoir si dans le lave-glace, il n'y avait pas quelque chose.
Est-ce qu'ils ont contrôlé la nourriture, les plats que vous avez faits? Est-ce qu'il y a un goûteur? On se pose ces questions-là quand on fait à manger pour des gens aussi importants.
Non, il y a eu au préalable, 8 jours avant, avec Monsieur Cazeneuve, le préfet de Caen, ils ont voulu qu'on répète le repas, ce qui est normal, puis le chef de l'Élysée, évidemment. On répétait le repas.
Attends, comment tu répètes un repas? Tu manges avant? Comment tu fais pour répéter un repas? C'est extraordinaire, ça.
Qu'on refait exactement le repas qui allait être servi.
Tu bouffes deux fois, en fait.
Eh ouais. Et là, on arrive au dessert, et on avait un pâtissier de Caen, Alban Guilmet, je peux le nommer, qui est un garçon exceptionnel, qui nous avait fait des macarons. Et sur ces macarons, il avait pris le soin de marquer, avec de l'encre évidemment, mais de l'encre comestible, hein, 75e anniversaire et le drapeau bleu, blanc, rouge. Et tout se passe bien, mais je vois Monsieur Cazeneuve qui me regarde drôlement et qui me fait signe en regardant Madame la préfète. Et effectivement, elle avait les lèvres qui étaient bleues, blanc, rouge. Et après, ils m'ont pris en disant, ça, on supprime, hein, on ne sert pas. Parce que je vois bien la reine d'Angleterre avec les lèvres bleu, blanc, rouge.
Donc vous n'avez pas servi de mâche, parce que la reine d'Angleterre avec des mâches dans les dents, ça aurait été une catastrophe.
Ben voilà, quoi. Mais c'était un souvenir qui nous marque à jamais. Oui, effectivement, parce que non seulement j'ai eu la chance de faire ce 70e, mais j'ai aussi fait le 50e à la préfecture de Caen avec monsieur Mitterrand. qui avait eu un petit malaise à un moment. Et puis là, c'était un repas normalement qui devait durer 1h30. Allez, je vous le donne en mille. Combien de temps on a mis à servir ça?
Je ne sais pas, Michel, dis-moi.
12 minutes 30.
Oh là là, c'est au long, Pierre. Hein.
Les huîtres, le foie gras, le carré d'agneau, le fromage et le dessert. 12 minutes 30, bah oui, parce qu'il y avait du retard.
Merci beaucoup, Michel Bruno. On va poursuivre avec le débarquement avec vous, Rémi Lambert, Fivi, et votre complice Isabelle Hébert. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, enchanté.
Bonjour.
Vous ne passez pas inaperçu, vous avez tous les deux une cornemuse à la main et vous portez tous les deux un kilt. Alors vous portez ce vêtement car vous, Rémi Lambert et Fivi, vous avez des origines écossaises. Deux membres de votre famille écossaise ont pris part au débarquement. On peut parler de Bill Millin, il a joué de la cornemuse sous les balles de l'armée nazie.
Oui, c'est ça. Alors Bill Millin, donc c'est un Écossais d'origine aussi, hein, parce qu'il est né au Canada. Il est très rapidement revenu en Écosse pour se préparer sur ce fameux débarquement de Normandie, et il a été le piper officiel, donc le joueur de cornemuse officiel de Lord Lovat. Lord Lovat justement qui va être le commandant, hein, si on peut dire, du commando numéro 4. Donc c'est ce commando composé d'Écossais, mais aussi, il faut pas les oublier, avec les 177 commandos français du commando Kiefer.
Il est même représenté. Ce Bill Millin dans le film Le jour le plus long, on le voit en train de jouer de la cornemuse.
C'est ça. C'était quelque chose de très important pour les Écossais, puisque la cornemuse, qui a été considérée longtemps d'ailleurs par la couronne comme une arme de guerre, c'est une arme qui fait certes de la musique, mais pour accompagner les troupes, c'est pour les encourager.
Vous avez accepté de nous jouer un air de cornemuse avec votre complice Isabelle Hébert. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter ?
On va vous interpréter peut-être le morceau le plus connu, c'est le Amazing Grace.
Merci à tous les deux. Rémi Lambert, Fivi, lors de vos visites guidées, vous mêlez l'ancien et le moderne. Vous faites des visites en 3D. Comment ça marche ?
Alors en fait, j'ai créé une start-up avec mon collègue Gérald Cariou. Une jeune start-up où finalement on représente l'ancien, ça va de l'Antiquité, même on peut aller avant jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où on va faire des scènes de reconstitution basées sur des sources historiques, c'est très important, qu'on va recréer en simulation 3D, ce qu'on appelle de la reconstitution, via une application à télécharger, hein, Kairos Guide. On va arriver sur son téléphone et on va redécouvrir le paysage, que ça soit en Normandie ou ailleurs, où on va pouvoir faire une expérience, on va embarquer dans l'histoire, que ça soit du 2e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à justement ce fameux débarquement de Normandie en 1944. Et l'an prochain, donc en juin 2022, on va pouvoir découvrir Bill Millin qui arrive sur la plage et sur le Pegasus Bridge en 360 degrés reconstitué.
D'accord, ce héros à la cornemuse dont on a parlé juste avant, et on porte un masque virtuel, un masque 3D ?
Alors, soit on passe à un masque 3D, soit avec son téléphone directement, on va accrocher des mini lunettes de réalité virtuelle dessus, c'est simple, ça se glisse dans la poche, et on peut profiter de l'ensemble justement du paysage. Et c'est surtout qu'on va faire appel à pas n'importe qui, c'est à John Millin qui est le fils de Bill Millin.
Incroyable, la boucle est bouclée.
C'est ça.
Merci à tous les deux, merci à tous. Merci à Francis Gauguin et Sébastien Galopin pour leur aide précieuse. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert. C'est Irène Ménahem qui l'a préparée avec l'aide de Julien Martin et Thomas Lehété. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Lundi, vous retrouvez Aurélie Sfèze en Bourgogne.